Seigneur Jésus, parle-nous. Parle ce que tu as à cœur. Et donne-nous aussi des oreilles pour entendre. Donne-nous la grâce de coopérer avec toi. Car toi, tu œuvres le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Le Seigneur est en train d'œuvrer pour son bon plaisir. On va prendre la deuxième partie du chapitre 2 et le verset 12 commence ainsi, mes bien-aimés. C'est une transition. Ainsi, mes bien-aimés. À quoi ça se réfère, le mot ainsi? Ainsi, ça réfère au verset préalable, et dans ces versets, il est écrit ce que le Seigneur a déjà accompli. Ces versets parlent de l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur terre. Et nous avons lu que nous devons avoir la même attitude, le même sens comme Jésus-Christ. Il est vrai que nous avons toujours besoin des frères. Le chemin que le Seigneur a pris, c'était le chemin de l'humiliation. C'est si étonnant, le fait que le Dieu vivant se soit fait chair et qu'il ait envoyé son Fils sur terre, qu'il a vécu sur terre, et il s'est humilié davantage en prenant la forme d'un esclave. Il est devenu similaire aux hommes et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Là, sur la terre, les gens se battent pour leur ascension, tandis que le Seigneur a pris le chemin de l'humiliation. Il a pu prendre ce chemin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait en lui une vie si fiable. Donc le Seigneur s'est humilié. Il était capable de le faire. Il était le Fils, même s'il s'était humilié au plus bas point, au plus bas niveau. Il était toujours le Fils de Dieu, avec cette vie en lui, cette pureté. En dépit du fait qu'il s'est humilié, il est resté pur. Il s'est rendu chez les pécheurs et les religieux pensaient que c'était inadmissible. Pourtant, pour le Seigneur, c'était possible, puisqu'il avait cette vie capable de passer par la mort, de passer par toutes sortes de situations, sans être endommagé, sans être corrompu. Merveilleux, nous avons un tel Christ rempli de vie, rempli de réalité. À nous, quelque chose peut facilement nous nuire, nous pouvons être blessés dans notre fierté, mais le Seigneur, il a mené une vie humble, en humilité, tout en étant le Fils de Dieu. Et après sa mort et la résurrection, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lui, il est Seigneur. Il a passé par la vie sur terre et maintenant, il est notre Seigneur. Et c'est encore une raison supplémentaire pour laquelle verset 12 commence par « Ainsi, parce que le Seigneur est assis sur le trône comme le Christ ressuscité. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Le Seigneur a accompli tant de choses, ayant accompli toute l'œuvre de salut. Ainsi, nous devons mettre en œuvre notre propre salut. Ou bien, autrement dit, parce que lui l'a autant accompli, il est possible que nous puissions mettre en œuvre notre salut. Humainement parlant, ce ne serait pas possible. Les humains ne sont pas capables de sauver. Même dans le grand débat actuel pour sauver, comment sauver le climat. Moi, je ne sais pas si je puis le dire, mais je ne crois pas que les humains réussiront à le faire. Nous sommes trop défectueux et pas capables d'accomplir une œuvre de salut. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les toutes petites démarches. Cependant, elles peuvent être utiles quand même. Mais en ce qui concerne notre salut, nous dépendons de l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur. C'est notre base, justement, le salut accompli par le Seigneur lui-même. Ainsi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je crois que cette expérience était forte pour eux lorsque Paul et les autres frères sont venus à Philippe en leur amenant le Seigneur, le salut dans l'Évangile.
Et
l'histoire, on peut la lire dans Actes 16. Ils ne sont pas restés longtemps, ils ont dû repartir au bout d'un petit moment, tout en laissant les croyants seuls. Ils étaient seuls pour continuer, en fait. Bon, mais enfin, ils n'étaient pas vraiment seuls, mais ils dépendaient entièrement du Seigneur.
Ja, in der Macht des Herrn, unter
Et c'était tout ça, c'était sous l'autorité du Seigneur. Combien de temps ils ont pu rester? Il est vrai que des êtres humains les ont chassés, mais on voit souvent que les frères dans le livre des Actes ont dû continuer. Ils n'ont pas pu rester à un endroit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester pour conduire une église jusqu'à la gloire? Ça aurait été merveilleux, n'est-ce pas, de voir un frère rester à Éphèse, à Philippe, pendant un an, plusieurs années, jusqu'à ce que l'église entre dans la gloire. Le Seigneur n'a pas fait ça. Paul leur dit qu'ils devaient mettre en œuvre leur propre salut, même encore plus en son absence. Je pense que le début qu'ils avaient expérimenté était bien fort avec Paul. Et maintenant, de continuer de poursuivre sans ce frère. Nous aussi, nous sommes peut-être venus au Seigneur par l'intermédiaire d'une personne. Nous sommes venus à l'Église par le soutien d'une personne. Mais le Seigneur veut nous conduire en avant sans cette personne. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Beaucoup plus peut se faire. Pourquoi? Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce que je trouve étonnant, c'est le mot comme mettre en œuvre ou produire. Tout d'abord, en allemand, c'est le même mot. C'est à nous de mettre en œuvre. Et puis, ensuite, il dit que c'est Dieu qui met quelque chose en œuvre ou qui produit, en français, le vouloir et le faire. Donc, il s'agit en fait d'une coopération. Le Dieu vivant opère, il produit, et nous pouvons coopérer. On peut comparer à un instrument avec deux zones, un instrument avec une aiguille qui peut pencher vers la gauche, vers la droite. D'une part, c'est à nous de mettre en œuvre. D'autre part, c'est à Dieu de produire. Cette aiguille, où est-ce qu'elle se trouve plutôt? À quelle position? C'est plutôt vers nous ou en direction de la mise en œuvre de Dieu? Je dirais que cette aiguille bouge parfois, mais avec une tendance plutôt vers l'activité de Dieu. Cependant, ce ne sera pas possible sans notre mise en œuvre ou coopération. Quand nous annonçons l'évangile du salut, que disons-nous aux personnes qu'elles doivent faire? Croyez. On leur dit, tu ne dois pas faire grand-chose, en fait, pas faire des œuvres particulières, pas être une personne spéciale, ni aller à un endroit précis. Tout ce qu'il faut faire, c'est croire. Et la deuxième étape, c'est de te faire baptiser, alors tu seras sauvé. Le salut était tout d'abord une petite coopération, à savoir la foi en l'œuvre accomplie par le Seigneur. Et quelle en est la suite?
Jetzt aber los.
Allez, foncez, mettez en œuvre votre salut. Le Seigneur, il t'a sauvé, mais maintenant c'est à toi. À toi. Mais je voudrais signaler que c'est toujours selon le même principe. Le Seigneur a tout accompli, il est en train d'œuvrer, mais il a besoin de nous, de notre coopération par la foi. Cependant, il met aussi ici avec crainte et tremblement. C'est quand même fort comme expression. Je ne vais pas insister là-dessus ce soir parce que
keine menschliche Furcht in irgendjemand hineinlegen will.
Je ne veux pas transmettre une crainte ou un tremblement humain. Peut-être certains peuvent penser, moi, j'ai déjà pas mal de craintes et moi, j'ai de la sympathie si quelqu'un a ce sentiment. Parce que moi, je suis pareil parfois. Il n'est pas question de la crainte, de soucis humains, que qu'adviendra, qui pourra le faire. Parce que nous avons le Seigneur et c'est lui qui œuvre, qui produit le vouloir et le faire. Or, nous avons besoin de crainte et de tremblement. Je dirais d'avoir peur de ne pas coopérer, de louper la grâce. Ce serait trop dommage. Nous connaissons le verset dans les évangiles qui dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour certains à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils se rendront compte des opportunités qu'ils ont loupées aujourd'hui. Ils se rendront compte combien il aurait été facile et d'y arriver. Comme il a été bien dit lors de la première réunion, le Seigneur veut nous conduire tout au long du chemin du salut. Il nous a pleinement équipés pour pouvoir arriver jusqu'au but de notre foi, qui est le salut de notre âme. Quelqu'un pourra peut-être lire les versets dans 1 Pierre, chapitre 1.
Verses 9 and 10. Amen. Lob den Herrn. Was ist das Ziel unseres Glaubens?
Quel est le but de notre foi? C'est le salut de notre âme.
Und nach dieser Errettung haben gesucht und gefolgt.
Et c'est ce salut que les prophètes ont recherché. Ce salut était encore caché. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, cela se produit selon la grâce. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. D'une part, c'est avec crainte et tremblement, mais d'autre part, c'est dans la grâce. Il faut que le Seigneur nous le révèle. Il peut bien nous donner la bonne attitude, que personne ne soit découragé tout en ne pas prenant ces choses à la légère. Dieu produit le vouloir et le faire. Et dans le
14,
faites toute chose sans murmure et hésitation. Ça devient très pratique, sans murmure et hésitation. J'ai cherché un peu la signification de ce mot « murmure ». Et là où ce mot est employé, ça se réfère parfois à un manque d'approvisionnement, comme dans Exode, lorsque le peuple était dans le désert. Ils avaient l'habitude d'être bien nourris en Égypte, d'aller chercher l'eau, et ils avaient assez à manger. Et puis dans le désert, ils étaient coupés de l'alimentation, et la conséquence était les murmures parmi le peuple. À cause de ce manque de nourriture et de boissons. C'est ce qu'ils pensaient, du moins. Et c'est ça ce qui a provoqué les murmures.
Apostelgeschichte 6,
Acte 6 parle également de murmures tout au début de la vie de l'Église. Savez-vous pourquoi? Ils ont vendu leurs possessions lorsque les disciples devenaient plus nombreux. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, de nouveau, des murmures suite à un manque d'approvisionnement.
So schnell kann ein Murren entstehen.
Les murmures peuvent survenir si vite. Dans Acte
6,
les murmures, le problème des murmures est réglé lorsque des hommes spirituels ont pris soin d'un approvisionnement pour tous les croyants. Et nous, pareil, nous avons besoin de l'approvisionnement.
Et
il faut garantir cet approvisionnement. Mais on peut tourner autrement, l'approvisionnement est sûr. Philippiens
1.
Je sais que ceci contribuera à mon salut par vos prières et l'approvisionnement avec l'Esprit de Jésus-Christ. Paul, il était dans la prison, dans les restrictions. Cependant, il était convaincu que toutes ces choses serviront à son salut par les prières et le riche approvisionnement. Donc, il est important de veiller, d'assurer ce riche approvisionnement. Encore deux autres versets concernant cet approvisionnement dans Galates 3, 5.
Der euch nun den Geist darreicht und Machttaten unter euch vollbringt,
Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Celui qui vous accorde l'esprit. En grec, le mot ici pour accorder, c'est le même, exactement le même comme approvisionnement, qui vous approvisionne avec l'esprit. Il y a donc quelqu'un qui nous approvisionne avec l'esprit. Et accompli, il opère des miracles. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Non. Il n'est pas question des œuvres de la loi, de l'obligation de faire quelque chose, respecter des lois. Il est plutôt question de celui qui nous approvisionne, qui nous accorde l'esprit par la prédication de la foi. La prédication de la foi nous approvisionne. Étonnant, n'est-ce pas? Par cette prédication, en allemand, c'est le mot écouter. En écoutant, nous pouvons recevoir l'approvisionnement. L'obéissance, ça va dans le même sens. Nous entendons, nous écoutons, nous pratiquons. En disant Amen, on conclut ce Saint-Marché. Et cela reste toujours un exercice. Dans Actes 16, la description, comme ils sont venus à Philippe, et on se rend compte que les frères étaient obligés de faire très attention à la conduite de l'esprit.
Actes 16,
verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, ça aussi, ça arrive, le Saint-Esprit qui les empêche d'annoncer la parole. Nous, on pense peut-être, mais il faut annoncer la parole partout, en tout temps et hors du temps. Oui, il faut toujours être prêt, tout en restant cependant sous la conduite de l'Esprit. Et à ce moment-là, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Mais les frères ne se sont pas dit, bon, on va tout simplement faire une pause si on ne peut pas annoncer la parole. Non, ils restaient dans la communion avec le Seigneur en cherchant la conduite de l'Esprit. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Maintenant, c'était très clair. Parfois, au début, c'est pas clair, mais le Seigneur parle quand même. Moi, j'ai eu le désir de connaître comment le Seigneur parle et comment il conduit. J'avais avant, je pensais qu'il faut parler au maximum, profiter d'un maximum de possibilités, même j'ai compris qu'il faut faire attention à l'occasion préparée par l'esprit. Récemment, j'étais en compagnie avec quelques collègues et je me suis dit, mais il faudrait bien que je leur parle un peu. J'ai cherché comment introduire le sujet. Le Seigneur m'a donné la grâce et j'étais content de pouvoir au moins faire un début de prédication. Et parfois, entre collègues, le sujet peut sauter d'un point à l'autre très vite. Mais une autre opportunité s'est présentée plus tard. Du coup, de façon inattendue, je ne veux pas m'étendre là-dessus trop longtemps, mais moi j'avais vu que le Seigneur veut nous conduire, nous guider. Nous pensons peut-être, bon, c'était tout pour aujourd'hui, ou bien, cette personne-là, je vais plutôt rien lui dire. Et du coup, une opportunité se présente, le Seigneur a tout préparé, et ces opportunités sont précieuses. Le Seigneur connaît les cœurs. Il sait qui il a déjà préparé. Qu'il nous donne la grâce d'obéir et également qu'il nous donne la grâce lorsque nous loupons les opportunités de quand même nous attacher à lui. Moi, je peux dire qu'il y avait beaucoup de cas où j'ai pas du tout ou pas tout à fait réussi à exprimer ce que je voulais dire. Cependant, le Seigneur a préparé une autre opportunité plus tard. Il faut avoir des oreilles pour entendre et profiter de l'approvisionnement de l'Esprit. C'est ainsi que nous pouvons prier. Cela continue comme ça dans Philippiens 2. Afin que vous soyez purs, enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. En fait, nous pouvons prier comme des flambeaux. Ce verset semblable de Matthieu 5, la ville sur la montagne ne peut pas rester cachée. L'Église est une lumière brillante, nous aussi en tant que croyants individuels, mais d'autant plus l'Église. Il ne faut pas fermer les volets. Il y avait des moments où les gens devaient fermer les volets pour que la lumière ne se voyait pas. Mais ces temps sont révolus, nous pouvons laisser briller la lumière. Et parfois c'est une toute petite lumière. Une petite lumière, ça peut être une phrase, un verset, un témoignage concernant notre foi, ça peut être comme une lumière. Une lumière est belle. Plus qu'il est ténébreux, plus c'est beau de voir la lumière, rien qu'une toute petite lumière. Et si attrayante, elle peut guider au salut. Nous sommes la lumière. Pas besoin d'avoir une lampe de poche ou de mettre quelque chose dans la lumière. C'est plutôt la nature du Seigneur en nous, le salut qu'il a déjà produit en nous. Ça crée une lumière, une brillance dans la nature, également dans nos paroles. C'est ce que le Seigneur œuvre en nous, le salut du Seigneur brille pour la connaissance de Dieu. Ce que le Seigneur a déjà mis en œuvre en nous, ça peut être utile aux autres.
Dem mir das Wort des Lebens darstellt. Ja, das Wort des Lebens darstellt. Wir können dieses Wort reden,
c'est
reden,
und wir können es auch darstellen. Porter la parole de vie. Nous pouvons annoncer la parole, nous pouvons également la porter ou la représenter, l'exprimer. Et ceci est possible en tant qu'individu, mais le Seigneur a surtout besoin de l'Église pour manifester la parole. Dans Timothée, Paul, il dit que l'Église est la base et la colonne de la vérité. Par l'Église, la parole est manifestée, révélée. Ce qui est encore autre chose, nous avons beaucoup de livres au fond et il y a certains qui sont utiles pour être distribués, mais ce n'est qu'une partie de la parole en forme écrite. La parole en nous, la parole manifestée dans l'Église, c'est encore autre chose. La parole de la vie.
Ja, als solche braucht der Herr uns und als solche wollen wir auch mit ihm zusammen.
Et le Seigneur a besoin de nous et nous voulons coopérer avec lui. Nous voulons nous remplir en prenant la parole chaque jour et puis nous aurons également quelque chose à donner. Si nous la lisons, nous pourrons également la parler. Si elle œuvre en nous pour notre salut, nous pourrons également la manifester. Que le Seigneur nous fortifie en tant que personne qui porte et qui manifeste la parole de vie. Je m'arrête là, mais le Seigneur continue à œuvrer.